travel.tel. Et donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit, c'est la première fois que le sujet de l'opérateur de registre a été amené. Tout à chaque fois, on parle de registre et de bureau d'enregistrement. Le fait est qu'il y a, les revendeurs également. Donc, un registre ne peut pas être en bureau d'enregistrement, mais ils peuvent être revendeurs et avoir une emprise sur le marché. Autre aspect, je suis content que l'on parle des faits, parce qu'on parle toujours au niveau théorique, mais aujourd'hui, étant donné que dans quelques mois, il y aura des nouveaux GTLD, mais qu'est-ce qui se passe sur le marché aujourd'hui? Il y a un marché pour les opérateurs de registre, et ce n'est pas ceux qui existent déjà, VeriSign, etc. On les voit ici, ils sont présents, ils ont ils exposent ici, à l'extérieur de cette salle. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché aujourd'hui? Si les nouveaux GLT, s'ils s'adressent au registre et ont des opérateurs affiliés et qu'on leur dit « si vous utilisez quelqu'un d'autre pour être opérateur et vous ne m'utilisez pas moi, à ce moment-là, je vais vous faire payer » pour que mes sociétés apparentées portent votre TLD. Si vous utilisez des sociétés apparentées, par exemple, des sociétés affiliées, on pourra vous faire payer quelques milliers de dollars par mois. Nous voulons une part d'intérêt dans votre compagnie. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas, je n'invente rien. C'est ce qui se passe. C'est la situation. Et si on a cette nouvelle série qui va commencer dans quelques mois. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent maintenant qui font pour faire des demandes à de nouveaux domaines de premier niveau. Et mon souci, c'est que tout ça, ça se passe aujourd'hui. On parle ça comme si c'était théorique. Les investisseurs ne savent pas quoi faire. C'est une observation intéressante. Ce n'est pas la première fois qu'elle a été faite. Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'on s'entend dire que l'ICANN va plus lentement que le marché. Mais ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de faciliter d'autres débats au sein de l'ICANN afin qu'on puisse répondre à ces préoccupations. Parce que nous tous ici présents, nous sommes ce qui est le plus important pour nous tous, c'est d'avoir une réponse. On peut avoir une bonne réponse ou une mauvaise réponse, mais il faut avoir une réponse parce que vous avez une activité commerciale à mener. Et c'est pour ça que nous sommes là. Richard Tandem de Inom. C'est certainement une question d'emprise de marché. Donc, pour reprendre ce que Jeff a dit, nous avons deux bureaux d'enregistrement. Et c'est un marché très concurrentiel. Il y a un groupe qui s'occupent des machines qui n'ont pas de capacité de registre et qui sont en concurrence avec nous. Donc, je pense que les occasions d'emprise sur le marché sont rares. Je voudrais parler de trois effets anti-concurrence. Échapper au plafond des prix et l'échange d'informations. Le contexte de ce manuel, pour les demandeurs, les problèmes que vous avez mentionnés, les inconvénients sont produits. Il n'y a pas de plafonnement des prix sur les TLD, donc ce n'est pas un problème. Il y a un accès égal et ouvert pour les bureaux d'enregistrement, donc on ne peut pas être le seul bureau d'enregistrement, donc c'est couvert. Et les données qu'on les registre, ce sont des données publiques, donc il n'y a pas d'informations sensibles. Donc, rapidement, quelques réflexions sur l'emprise sur le marché. Nous voudrions, nous aussi, faire une demande de TLD, point cool. Nous pensons que ce point cool sera en compétition avec point com et point net. Nous ne pensons pas que nous aurions une emprise sur le marché dans ce sens. Et même si nous sommes un marché nous-mêmes, et même s'il peut y avoir un point very cool ou extra cool, ou too cool, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup qu'il n'y a pas de problème au niveau de concurrence, car nous n'aurons pas d'emprise sur le marché. Nous sommes en volume le deuxième bureau d'enregistrement, mais nous avons très peu d'emprise sur le marché. C'est très, très concurrentiel. en termes de service, en termes de qualité. Donc, même si nous sommes le numéro d'enregistrement en deuxième place, nous ne sommes pas si puissants que ça. Il y a 5 ans, est-ce que vous étiez déjà en deuxième position? Donc, il est évident que les bureaux d'enregistrement sont devenus un marché très concurrentiel. Ceux qui sont en première, deuxième, troisième, quatrième position ne restent pas en première, deuxième, troisième ou quatrième position. Donc, en ce qui concerne le manque d'emprise de marché, est-ce que vous facturez des prix qui sont plus ou moins importants que vos concurrents? Je suis le moins important. Est-ce que vous maintenez vos clients sur une dans la durée? Vous les gardez dans la durée? Quel est votre taux de perte de clients pour les clients existants? Probablement de l'ordre de 75%. Donc, vous perdez 25%. Et quel est votre taux de croissance? Votre rapport nouveau client par rapport aux clients existants. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que la base d'enregistrement augmente de 20% par an. Je parle de cela parce que ce sont les faits qu'il est important de savoir. Je suis d'accord avec Richard, j'aimerais avoir plus d'emprise sur le marché. Est-ce que vos clients peuvent vous quitter une fois qu'ils sont avec vous? Nous fournissons des services supérieurs, donc je parle des registrants. Non, parce que c'est très liquide. Les registrants peuvent se déplacer facilement. L'ICANN a mis en place des transferts de registres d'enregistrement à un autre. Donc les registrants passent de l'un à l'autre tout le temps. Pour revenir à ce que Jeff a dit, il y a des bureaux d'enregistrement qui peuvent dire oui, si vous m'utilisez, vous adressez à nous pour vos TLD, je vais vous punir. Je n'ai jamais pensé à cette situation. Je n'ai pas le pouvoir pour faire ça. Je n'ai pas l'emprise sur le marché qui me permettrait de faire ça. Mais maintenant que si on me dit que des bureaux d'enregistrement le font, je vais peut-être y penser parce que des registres naïfs pourraient peut-être m'obéir. Mais peut-être qu'ils diront non. Et si les registres me disent non, me diront non, à ce moment-là, je peux vous parier que ce bureau d'enregistrement continuera d'offrir ce TLD.
Je suis avec NetChoice et je voudrais amener le point de vue des bureaux d'enregistrement, ceux qui construisent des noms Internet, puisque Josh a parlé des contrats exclusifs verticaux, mais du point de vue des registrants, il faut parler de la rivalité. Un exemple où un bureau d'enregistrement peut donc empêcher un nom d'avoir de l'espace commercial puisqu'ils ne veulent pas lui donner une emprise sur le marché. Il y a un exemple. Il y a un certain nombre de bureaux d'enregistrement rivaux qui n'ont pas d'espace commercial. Et si je suis registrant, si j'essaie de créer un service de réseautage social, j'essaie d'avoir une présence. Si ICANN souhaite que les nouveaux TLD réussissent, les effets du réseau disent que les effets de si on essaye de supprimer les effets une observation rapide. Il y a des abus du système quand même. Vous êtes bien placé pour savoir ce qui se passe dans le marché, mais en parlant de façon théorique, il y a un lien très fort entre l'emprise de marché, l'intensité concurrentielle et la performance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'abus dans le cadre d'une processus concurrentiel, mais dans l'analyse économique, l'existence même de ces abus ne favorise pas une prohibition généralisée. Si on peut cibler simplement ces abus, et il semble que c'est ça la pratique qui est proposé, enfin promu. Si on fait, il y a des effets de réseau dans, par exemple, Google, la recherche Google. Mais je pense que les autorités antitrust, anti-monopole, vont pouvoir faire des recherches pour 150 moteurs de recherche. Ils vont laisser couler le marché, laisser fonctionner le marché. Et je ne parle pas seulement pas des autorités antitrust, c'est comment ICANN et notre communauté s'occupent de cela. Mais je voulais demander au personnel de ICANN quand est-ce qu'on va pouvoir parler de cela de nouveau après que le personnel de ICANN a développé des lignes directrices avant de terminer le nouveau contrat TLD. Merci. Je m'appelle Mike Pelley, je suis participant de ICANN depuis longtemps et je participe dans la propriété intellectuelle et dans un bureau d'enregistrement. Il me semble que vous avez parlé de rapport Cray, le fait qu'il faut des faits avant de pouvoir créer de bons règlements. Depuis des années, il y a eu une augmentation du nombre de litiges suite à des actions criminalisées des acteurs. Le squattage, il y a eu des problèmes aussi, enfin une réponse à la sécurité et la stabilité. Toutes ces questions ou ces actions sont néfastes pour les utilisateurs et les registrants. Et en lisant les rapports, je n'ai pas vu d'analyse de ces litiges ou des rapports où il y a eu donc une mauvaise conduite par les bureaux d'enregistrement qui ont été néfastes pour les registrants. Donc, pour revenir au fait qu'il faut faire de bonnes règles, est-ce que vous pensez que ces faits-là vont être pris en compte? Je ne sais pas pourquoi ça sera pertinent ici. Peut-être il faut le prendre en considération, mais quel est le rapport avec l'intégration verticale entre les bureaux d'enregistrement et les registres? Ce n'est pas évident pour moi. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Pouvez-vous l'expliquer vous-même? Mettons que j'ai une bonne idée, le marché est créé par les registrants et c'est eux qui créent le produit. J'ai une bonne idée et je suis pas sûre que le nom Internet que j'ai est bon. Ça se peut que le nom que j'ai choisi a été vendu à quelqu'un d'autre et je ne peux pas l'utiliser. Donc, cela suppose que tout le monde est intégré verticalement. Ne le testez pas avec la personne qui a une intégration verticale si vous êtes préoccupé. Vous supposez que tout le monde est à une intégration verticale. Intervention au micro. Il faut rester avec Pledge. Donc, Joe, un des problèmes, il y avait un problème systémique, il me semble, qui est le tasting. Il y avait un certain nombre de personnes du côté des bureaux d'enregistrement qui profitaient de cela. Et c'était les registres qui fait une demande pour l'arrêter. Ensuite, c'était des affiliés qui sont prononcés. Mais ça, donc c'était vraiment un problème systémique. Donc, dans ce contexte-là, je pense que cette séparation verticale où les registres pouvaient empêcher cet effet négatif était une bonne chose. Je ne vais pas donc continuer à me débattre. Je ne vais pas, surtout avec des économistes. C'est mon analyse, mais je pense que cette séparation, c'est une fonction importante. Deuxième point. Et j'ai soulevé ça avec le conseil lors d'une réunion avec les registres. L'économiste et les données qu'on a regardées jusqu'à maintenant, c'était donc des données qui sortaient des États-Unis. Mais peut-être il faut regarder le marché mondial dans lequel je peux fonctionner. Et je crois que ça revient au principe de bonne fête qui amène des bonnes règles. Et il me semble qu'on ne peut pas avoir de bonnes règles si on regarde que les fêtes sortant des États-Unis. Je pense que c'est un bon point, mais ça ne s'applique pas ici parce que ces règles s'opèrent au niveau mondial. Ce n'est pas limité par des frontières. National. Je pense que ce sont des règles que vous verrez promues par les économistes en Pologne, ailleurs. Un dernier point. Une chose, j'ai écrit pas mal de choses à ce propos, c'est que le rapport Cray, qu'on a dit que ce rapport allait être disponible en juin 2008. Il y a eu des retards. Avec Charles River, on a eu donc un projet de rapport et puis le rapport révisé. Avec le Charles Cray, il n'y a eu que le rapport final. Est-ce qu'il y avait un problème en fournissant un projet de rapport? Il faut parler avec John Jeffrey et je vais lui envoyer l'email. Omaham, deux points. Premièrement, sur l'analyse au cas par cas, qu'est-ce que vous faites quand les fêtes sur le terrain changent aussi rapidement, enfin presque quotidiennement? Dans le rapport Cray, c'était février 2008, avec les quatre bureaux d'enregistrement, ça représentait 50% du marché. Maintenant, c'est 8%. Donc, avec l'autre rapport, c'était 63 à 34. Donc, les fêtes sur le terrain évoluent très rapidement. Et il me semble que ça, c'est un problème quand on se base sur une analyse au cas par cas. Premièrement, c'est CRA, c'est pas CRAY. J'ai pas écrit le rapport, c'est l'entreprise qui a écrit le rapport. Quand les fêtes modifient, c'est justement là qu'il faut prendre au cas par cas. Je suis tout à fait d'accord, mais si on fait une analyse au cas par cas, ça serait un an plus tard qu'il y aurait les nouveaux TLD. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est très difficile. Oui, je suis d'accord, c'est plus difficile, mais il faut être sûr qu'on n'amène pas des contraintes. antitrust est beaucoup plus difficile. Les choses évoluent rapidement. Et quand vous faites une analyse antitrust, vous essayez de prévoir l'avenir vu des approches entreprises. Si je fais quel sera l'effet? Donc, votre point est bon. Si vous prenez une vue un jour et vous établissez la règle à partir des données prises sur le premier jour, la règle ne sera plus valable. Le problème avec ICANN, c'est que on n'évolue pas très rapidement, donc on ne travaille pas très vite. Deuxième point que je voulais soulever, c'était en ce qui concerne le statu quo qui fournit des bénéfices à long terme. Et si c'est dans l'immédiat, il y aura des coûts. Qu'est-ce que vous faites dans la situation où vous avez une règle de structure où l'ICANN a mis des acteurs dans le marché qui remplissent des rôles différents? On n'est pas tous à égalité. Vous fonctionnez comme vous avez avec l'exemple des réglementations des compagnies aériennes. Il n'y avait pas le problème qu'il y avait 1000 compagnies nouveaux le lendemain. Je comprends bien la différence entre la concurrence et les effets négatifs pour les consommateurs. Mais vous avez un inconvénient de la structure qui a été pris pour les registres les plus petits, donc qui opèrent sous la règle de séparation verticale. Ce n'est pas clair pour moi. S'ils ont besoin de plafonnement de prix ou de... Il faudrait en faire l'analyse avant de pouvoir décider. De l'autre côté, c'est que ils n'ont pas construit une base de bureau d'enregistrement. Ces effets à long terme et à court terme n'est pas très valable sur le terrain. Moi, j'ai dit ça en tant qu'utilisateur. Vous travaillez pour nous en tant qu'utilisateur. Donc, les règles que j'ai créées doivent être les meilleures règles pour le développement de l'Internet. Et si il y a des effets négatifs pour certaines entreprises et des avantages pour d'autres, c'est ça la nature de la concurrence. Y a-t-il donc des situations où il y a une règle de structure qui n'est pas la création, qui ne sort pas du marché, mais par les régulateurs et qui change du jour au lendemain et qui va avoir un impact? Oui, c'est ça qui s'est passé avec les compagnies aériennes. United, par exemple, avait des coûts plus élevés et... Donc, ils étaient tout d'un coup en concurrence avec des compagnies qui n'avaient pas de négociations avec les syndicats, etc. Et ils avaient des petits avions qui étaient plus récents, qui utilisaient moins de fuel, etc. Donc c'est peut-être pas la bonne réponse pour ICANN. Votre point, c'est que si vous faites tout d'un coup, du jour au lendemain, un changement, il y aura des effets négatifs pour certains et positifs pour d'autres. Oui, et l'impact va être donc produit par la règle ICANN. Oui, il me semble que c'est une évaluation juste. Mais, et donc, ICANN doit savoir ce qu'ils vont faire pour cela. Et donc, je voulais demander s'il y a d'autres exemples dans le monde.
Colmer, I am policy counsel at .org, the public interest.
Colmer, avant de poser ma question, je voulais vous remercier d'avoir lu le mémo que nous avons produit et que j'ai aidé à rédiger. Et je voulais porter l'attention que le point clé de ce rapport, c'était de créer un terrain égal pour tout le monde, de reconnaître les 10 ans de progrès qui ont été faits et enfin de promouvoir la concurrence. Et ça me préoccupe, et la préoccupation qu'il y aurait une approche un peu trop académique sur et l'impact dans le rapport CRA. Il y aura peut-être un effet de goulot en empêchant les nouveaux TLD d'opérer, mais peut-être c'est le contraire qui va s'opérer. Il y a par exemple un bureau d'enregistrement qui pourrait donc être fournisseur de services aussi, et je pense que si vous êtes un nouveau GTLD demandeur, et il y a donc les fournisseurs de services qui vous forcent à les utiliser, ça peut créer des effets très négatifs pour les nouveaux GTLD. Et donc j'ai une question, quelle est l'origine de ce pouvoir? Comment ils peuvent vous forcer? Pas la force du marché, pas les forcer à utiliser le service. Non, ils vous demandent comment vous savez que les bureaux d'enregistrement ont une emprise de marché. Quelle est la preuve? Ben, il me semble que c'est très clair des données. Quelles données? Ben, le nombre ou la distribution. Jusqu'où on peut contrôler un nouveau GTLD, l'espace commercial qu'ils peuvent avoir. Les bureaux d'enregistrement peuvent contrôler. GoDaddy a moins de 30% de l'espace commercial et notre fournisseur. Un qui a plus d'espace commercial, est-ce que vous considérez qu'ils ont plus d'emprise de marché? Il me semble. Est-ce que je peux faire un point? Tous ceux qui fabriquent un produit qui est vendu à un client aimeraient avoir que ce produit soit disponible sur les rayons de Walmart, qui est le plus grand entreprise du marché américain. Beaucoup de gens aimeraient avoir le produit chez Walmart, mais pas tout le monde là. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font des bénéfices, même s'ils n'ont pas le produit chez Walmart. Et c'est ce que je peux vous demander en tant que bureau d'enregistrement affilié. Est-ce que ce ne serait pas normal qu'ils donneraient de l'espace au nouveau GTLD pour lequel ils fournissent des services? Ils fournissent un service? Oui, ils sont obligés de le faire parce qu'ils partagent les bénéfices et ils vont pouvoir vendre les noms Internet à un prix plus bas. Et ça, c'est une très bonne chose pour les registrants. Deuxième chose. Chaque vendeur a des produits de marque privée. Ils les vendent à un prix plus bas. pour le consommateur, et c'est une bonne chose. Vous pouvez applaudir encore une fois. Et cela n'a pas l'effet de forcer les enfin d'être trop concurrentiel pour les grandes marques. Et je pense qu'il faut faire plus d'analyses. Il y a une parallèle ici. Vous m'accusez d'être trop théorique, mais je pense que c'est vous. Vous faites une supposition que les registrants, ils ont l'emprise de marché, mais il n'y a pas de preuve pour ça. Et vous dites que vous êtes préoccupé que les bureaux d'enregistrement vont forcer les registres à acheter des services. Mais... S'ils ont une emprise de marché, ils peuvent donc décider d'eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas forcés, puisqu'ils ont l'emprise de marché. Je ne sais pas ce que le règlement fait, selon votre analyse, sauf de protéger la structure actuelle. Et c'est ça la question à laquelle il faut trouver une réponse. C'est la question pratique. Je voudrais ajouter un point pratique. Joe a parlé de Walmart. Je fais beaucoup de travail sur les contrats des espaces commerciaux. La plupart des études sur les effets, sur le prix, la qualité, etc., suggèrent que où il y a toutes les motivations existantes, une intégration verticale pour le consommateur, pour le vendeur, etc., où vous avez une concurrence en aval, où vous avez donc des entreprises comme Walmart qui sont très importantes, ou des supermarchés qui sont assez grands. La recherche montre c'est moi qui ai fait la recherche, mais la concurrence pour le rayon aide les consommateurs. Ça fait baisser les prix, ça augmente la variété de produits, les magasins sont plus grands, sont plus spacieux, plus agréables. Et ça, c'est une conclusion naturelle de la concurrence sur la distribution. Et il y a des similarités et des différences avec notre activité, mais je crois que le même principe s'applique. Je m'appelle Ken Stubbs. J'ai quelques observations à faire. Premièrement, par rapport à une observation que vous venez de faire, je pense qu'il faut plus d'analyse des données, puisque il y a un terme qu'on utilise qui est « net creates ». Donc, les créations nettes depuis 2-3 ans, vous trouverez une différence très importante dans ce qui a réellement l'emprise de marché. Et je pense qu'il faut le regarder de très près. Et cela n'a pas été assez bien pris en compte. En ce qui concerne les propriétaires croisés, ça donne accès à des informations très sensible. Le rapport CERA dit que si les exigences sur la séparation des bureaux de registrement et des registrats, je pense qu'il faudrait augmenter la législation sur la conduite de ces entreprises, y compris sur le partage des données. Nous savons que par le passé, mise en vigueur était un problème très important pour ICANN. Nous savons qu'il y a eu des contrats qui ont été faits. Les clauses sur la mise en vigueur ont fait en sorte que c'était très difficile pour ICANN de les mettre en vigueur parce que... quand vous avez le potentiel dans cette nouvelle phase des abus à une échelle beaucoup plus importante que par le passé, puisque vous avez seulement un secteur, mais que maintenant il y a des différents secteurs et différentes définitions qui sont impliquées, c'est un autre problème. Et est-ce que on laisse le marché déterminer la manière dont ça va se faire, qui risque de nous créer beaucoup de problèmes à l'avenir, à boucher des trous. Et je pense que ce n'est pas dans notre intérêt pour la propriété intellectuelle, etc. Donc, voici mon point de vue. Ce sont des points pertinents et je pense que ICANN doit les prendre en considération. Un autre point, heureusement que ce n'est pas moi qui va prendre cette décision, mais celui qui va prendre cette décision doit prendre en compte toutes ces choses-là, mais aussi les bénéfices pour le consommateur qui vont découler d'avoir beaucoup plus de choix dans le TLD. Si vous pensez qu'il y aurait des avantages, d'ailleurs importants, c'est ma perception et je crois que ce serait la perception d'un point de vue économique. Donc, il faut équilibrer ces choses-là et faire des choix.
Je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez très bien que je n'étais pas contre l'expansion de l'espace. Je suis pour une expansion responsable. Et mon souci est lié à l'intégration verticale et aux problèmes qui peuvent en résulter. J'avais bien compris, je n'étais pas assez précis. Quand je parle d'avantages, je ne parle pas des avantages des nouveaux GTLD. Je parle des bénéfices qui pourraient être retirés de l'intégration de l'intégration verticale par les GTLD. Je suis Bruce Tonken et je travaille pour Melbourne IT et je m'occupe de l'élaboration des politiques à l'ICANN. Et l'ICANN donc s'occupe de réglementation, les registres, les bureaux d'enregistrement, les utilisateurs commerciaux, non commerciaux, etc. Il y a deux aspects à tout cela. Il y a une règle de création des règles et une règle pour la mise en application des règles. Un des processus, c'est les transferts. Nous avons établi des règles très détaillées pour établir les transferts et nous savions comment le faire. Et l'ICANN met en application ces règles de transfert et nous avons un département de conformité qui s'occupe de cela. Nous approuvons de nouveaux services de registre et il y avait beaucoup de litiges à ce moment-là quand nous l'avons fait et notamment en ce qui concerne la concurrence. Est-ce que cela créerait un problème pour la concurrence? La décision dans ce cas était de dire, nous avons donc suscité des commentaires publics et le secteur, la profession a répondu, peut répondre, mais je ne peux pas décider s'il va y avoir un problème au niveau de la concurrence, mais je peux référer cela à un organe extérieur, à une organisation extérieure d'arbitration. Et on ne peut pas, on ne met pas en application les règles, on réfère en fait les cas. Donc on ne les désablie pas et on ne les met pas en application, ces règles. Mais à mi-chemin un peu entre les deux, et c'est ce qui se passe un peu en Australie. En Australie, nous avons un organe de compétition qui s'appelle la Commission australienne de la concurrence. Et ils n'ont pas véritablement de pouvoir de mettre en application les règles, mais ils peuvent traîner une organisation, une compagnie en justice, et c'est les tribunaux qui tablent. Et est-ce qu'on a véritablement, c'est la même chose ici, est-ce qu'on peut véritablement écrire les règles? Je ne pense pas. On ne peut, sauf à moins au risque d'ailleurs simplement d'être très simpliste. Ou alors on peut dire on va confier à d'autres l'élaboration des lois, par exemple la législation australienne ou la législation américaine, mais Ce qui m'inquiète, c'est que les organisations établissent des priorités dans leur cas. Et pour moi, en tant que bureau d'enregistrement, ça peut être un problème ou un problème pour un registre. Mais s'il y a un organe gouvernemental qui régule les choses, cet organe gouvernemental peut dire oui, il y a un problème avec les télécommunications ou avec l'aviation, les compagnies aériennes. Et en fin de compte, ce n'est pas juste une référence. C'est l'ICANN pourrait, par exemple, intenter une action en justice, et c'est laisser aux tribunaux la possibilité de résoudre le problème. Donc, mais il faudrait trouver des exemples dans d'autres secteurs qui utilisent plutôt la législation de leur pays plutôt que de créer leurs propres règles. Je n'ai pas d'exemple en tête. Non, je ne sais pas. Dans la législation américaine, si l'ICANN aurait une position, peut-être selon les juridictions, les règles peuvent varier. Donc la situation pourrait changer. Je ne suis pas certain que s'il s'agisse que soit véritablement que ça puisse marcher. Je comprends bien votre raisonnement, mais je ne pense pas que la solution puisse marcher. C'est intéressant ce que vous venez de dire, mais je pense que c'est complexe. Vous pourriez, si vous vouliez, établir votre propre jurisprudence antitrust, anti-monopole, et la baser aux États-Unis, en Australie, n'importe où, et établir un bureau. J'ai encore plus d'avocats à l'ICANN. Est-ce que ce serait formidable? Beaucoup de gens s'inquiète du fait que l'ICANN, de la faiblesse de l'ICANN. Et je pense que c'était un peu ce que j'essayais de dire. Ce qui serait intéressant, peut-être, ce serait de déléguer ce domaine avec l'autorité nationale qui s'occupe de la concurrence. Et je pense que c'est ça le problème. La vitesse également, parce que si quelqu'un commence à enfreindre les règles, quelqu'un d'autre risque d'en faire autant. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui souhaitent s'expliquer. Peut-être Steve et Josh peuvent continuer à parler, mais il va falloir terminer cette réunion ici. Ce que je suggère, peut-être que vous pourriez soumettre à des questions écrites à nos invités, ou au moins on pourra avoir une trace écrite de ces questions et de ces réponses. Et on pourrait donc... Mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions à ces deux personnes à côté de moi, n'hésitez pas. Intervention hors micro. Je vais laisser le personnel de l'ICANN la possibilité. Je pense que nous devrions arrêter à ce point, car il y a d'autres séances parallèles. Nous ne voulons pas interrompre ce dialogue. C'est vraiment excellent d'avoir ce dialogue, mais je pense que nous pourrions passer plutôt à une forme écrite. Est-ce que l'on peut garder la salle pour un peu plus de temps? Il nous reste une demi-heure dans cette salle, mais c'est à nos deux invités de décider s'ils souhaitent rester. Oui, ils sont prêts à le faire. Ils peuvent, John, si vous voulez présider la salle, mais la séance. Mais on ne peut pas prendre plus d'une demi-heure si on prendra des questions écrites, si on ne peut pas aller au-delà d'une demi-heure. Paul Footy, Alsold. J'ai bien compris de Kurt Pritz que, telles que les choses en sont à l'heure actuelle, ICANN ne savent pas exactement combien le système peut soutenir de nouveaux GTLD. Étant donné cela, quand on parle de la facilité d'entrée ou d'accès au marché, partout dans, autour d'une il est toujours un terme, on voit Yahoo, par exemple, il n'y a plus de .com. Et quand une organisation, à partir du moment où une organisation aura le droit d'acheter ses GTLD, ces corporations, ces compagnies vont acheter l'Internet. Cela va fermer l'Internet à tout autre concurrent, bien que leur seul, le seul recours sera d'avoir un domaine de second niveau. Comment est-ce que cela peut être positif pour la concurrence? Pourquoi est-ce que ces centaines, ces milliers de compagnies, de corporations auront leur propre TLD? Pourquoi est-ce que cela tuerait les autres? C'est exactement le commentaire que les gens disaient, ce que disaient il y a 20 ans, quand les gens quand je travaillais dans la propriété commerciale. Aujourd'hui, le secteur alimentaire est dominé par les supermarchés. C'est parce que les petits commerces n'étaient pas concurrents. Est-ce que vous voulez vraiment dire qu'on n'aurait pas dû permis aux chaînes de supermarchés de s'installer? Non, ce que j'essaye de dire, c'est que la concurrence est... Le rapport Dennis Carlton soutient les nouveaux GTLD car cela encourage la concurrence. Si les 1000 premières corporations peuvent avoir des noms de domaine et peuvent avoir de la publicité dans les lieux de sport, par exemple, les infrastructures sportives, à ce moment-là, il restera des miettes pour le reste. Est-ce que ces milliers de TLD auront également des noms de domaine ou est-ce que ce seront des propriétaires commerciaux? Si j'étais Yahoo ou Microsoft, je ne laisserais personne d'autre sur mon site. Pourtant, c'est ce que fait Yahoo, c'est ce que fait Google. Toutes ces organisations qui sont des produits Coca-Cola, Pepsi, mais Apple vient de s'ouvrir. Ils s'étaient fermés, maintenant ils sont ouverts. Et quand il y a un effet sur le réseau, il y a un avantage à s'ouvrir. C'est pourquoi VHS a battu Metamax. Je ne sais pas que vous aurez milliers de TLD. Moi, je prévois des mille. Ils seront tous perdus, fermés. Et les 160 millions de personnes qui n'auront pas de nom de domaine, ils ne pourront pas avoir de nom de domaine. Ils pourront avoir des noms de domaine, mais ils auront une location secondaire, localisation secondaire. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose pour le commerce de détail au Royaume-Uni, entre les supermarchés et les petits commerçants. Je vais parler brièvement avant Tim parce que peut-être qu'il y répondra à ma question. Je sais, Damon. La réglementation et les régulateurs sont plus alignés sur le communisme que sur le capitalisme. Et je ne veux pas dire que la réglementation a aucune raison d'exister. Je pense que ça complique trop les choses. Le problème, c'est que pour que le libre échange, le marché libre existe vraiment, il faut une souplesse. Et la réglementation va à l'inverse de ça. Plus on réglemente quelque chose, plus on augmente du système fiscal. Les gens ne comprennent plus. Dans le nom de domaine, il y a beaucoup d'inefficacité et on perd plus de temps à administrer les choses plutôt qu'à s'occuper de la concurrence. La concurrence, ce qui va à l'encontre de la concurrence, c'est la complication, c'est le manque de simplicité, les obstacles. Est-ce qu'il y a une concurrence dans l'espace de nos enregistrements? Je ne m'occupe pas des lois, je suis un stratège. Et il y a trois grands groupes, les registres, les bureaux d'enregistrement et les registrants. Certains peuvent avoir un certain pouvoir et GoDaddy, par exemple, les registres comme GoDaddy, qui a une part du marché très importante. Vous dites que 75% n'est pas assez, mais en fait, si on regarde le marché du détail, l'état d'esprit des consommateurs, et si on compare ça, et si on amène tous les éléments qui rentrent dans un espace, et ce n'est pas une question d'enregistrement. L'argent, ce n'est pas dans l'enregistrement qu'elle se trouve, dans les enregistrements qu'il se trouve. Mais s'il y a des tensions à cause d'une surréglementation, on a des deals de paquets. En Allemagne, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de services gratuits, mais on paye le site d'hébergement. Je ne connais pas exactement la situation en Allemagne, mais je pense que c'est ça. Donc, si l'ICANN s'occupe régule le prix de la demande, ce n'est pas du tout comme ça que le marché fonctionne. Ce que je voudrais dire, et je voudrais savoir votre opinion à ce sujet, si vous simplifiez toutes les règles et si vous enlevez cette nécessité de tout réglementer, comment est-ce qu'on peut réglementer un marché qui n'est pas du tout déréglementé comme l'hébergement? Où est le problème avec la compétition, la concurrence? Si quelqu'un arrive sur Dutch.shop et veulent simplement vendre, ils veulent être bureau d'enregistrement, ils veulent également être la compagnie d'hébergement, ils veulent également être registre, ils veulent tout faire et ils veulent vendre à 1 000 $ le service ou 2 000 ou 5 000 $ dans un supermarché ouvert et où il n'y a pas de domination sur la compétition. Où est le problème? .com est en pleine croissance. Le reste est superflu. Si vous regardez le marché du détail, GoDaddy, que j'aime beaucoup, c'est une compagnie que j'aime beaucoup, c'est un acteur très important dans le marché de détail. En particulier, si on regarde leur rôle, l'hébergement, les autres services et les enregistrements. Ils ont une part très importante sur le marché. Si on regarde Inom, revendent les produits, ils n'ont pas véritablement de marque centrale. Ils distribuent leur mindshare dans d'autres réseaux de distribution. Et c'est plutôt... c'est pas véritablement un concurrent. Et comment il y a une concurrence entre eux, ce n'est pas vraiment très utile de le savoir. Donc, comment est-ce qu'on peut éliminer la réglementation? Comment est-ce qu'on peut ouvrir les marchés? C'est un argument en faveur de la réglementation. Si vous dites que GoDaddy a beaucoup de pouvoir, non, pas du tout, c'est simpliste. En haut du marché, si on prend toutes ces choses-là, l'hébergement, l'enregistrement, les services de registre, si on regarde tout ça et qu'on a des acteurs qui sont trop puissants, à ce moment-là, il faut avoir une réglementation. Mais si on laisse le reste du marché tranquille, on aura un système efficace où un marché est un marché et le commerce, c'est le commerce qui régit tout, qui domine tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Je n'ai pas compris votre question. Considérez-vous qu'on devrait simplifier le système pour qu'il soit... Est-ce qu'on peut simplifier le système pour qu'il ne soit rien de plus qu'un système où il n'y a pas simplement de domination, plus trop de domination pour les acteurs principaux? Donc ça correspond à l'analyse économique que nous devons faire. On peut avoir des règles très simples. On peut avoir une prohibition, une interdiction totale. On peut avoir une règle de l'égalité, ce qui se passe, se produit, ou on peut également avoir des exceptions pour .com et traiter cela différemment. On peut avoir des règles simples. Cela risque de conduire ou à des résultats ou sous-inclusifs ou sur-inclusifs. le fait qu'il y a ce potentiel anti-concurrentiel provient de l'analyse économique en ce qui concerne la simplicité par rapport au coût administratif. Avec des analyses de cas par cas, et ça c'est une question pour l'ICANN, ce n'est pas une question pour les économistes. Le coût administratif de cette analyse de cas par cas sont peut-être trop lourds par rapport aux gains, et peut-être qu'on veut déléguer à d'autres autorités ou avoir des règles plus simples. Mais si on regarde la situation au cours des 100 dernières années, comment est-ce que l'on peut avoir une analyse au cas par cas, parce qu'il faut les faire pour identifier les mauvais exemples, les mauvais cas, tout en donnant une certaine clarté, une certaine certitude aux entreprises pour qu'elles sachent ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. En général, on a un petit peu une combinaison des deux. Il y a des normes qui sont basées sur les faits et avec des règles très simples. Mais quand vous n'avez une réglementation, quand ce sont les gens qui déclenchent la réglementation, quand on devient si puissant qu'on en devient plus compétitif, qu'on est trop compétitif, qu'il n'y a plus de concurrence. À ce moment-là, quelles sont les raisons économiques? Aucune. Aucune raison. La question suivante. Tim Lewis de GoDaddy. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'emprise sur le marché. Nous sommes le 181e sur 185 bureaux d'enregistrement. Mais mon souci que je voudrais exprimer ici, j'ai une question aussi. La question qui ont été mentionnées aujourd'hui, qui ont été soulevées aujourd'hui, par certaines sont nouvelles et montrent pour moi la complexité de la question. Et j'apprécie tout à fait la suggestion d'une solution simple. Si on peut s'en tenir au calendrier existant et traiter de cette question et ne pas faire ces fautes, si on pense qu'on va pouvoir éviter les fautes, je pense qu'on se trompe. Cette calendrier qu'on s'est fixé, est-ce qu'on ne pourrait pas rester avec le status quo pour le premier tour et ensuite traiter des questions et prendre le temps qu'il faut et bien y réfléchir et peut-être attendre le prochain round, la prochaine série de discussions? Il faut vraiment prendre le temps que ce sujet mérite.
So do you charge higher prices than your
competitors? Est-ce que vous avez des prix plus élevés que vos concurrents? Est-ce que vous donnerez, pouvez contribuer des données afin de pouvoir calculer les parts de marché basées sur les revenus? Réponse au micro. Brian Q avec Affilius. Plutôt dans la conversation, on a dit qu'il y avait peut-être une façon de traiter les différents entreprises selon s'ils avaient une emprise de marché ou pas. Est-ce que vous avez donc des preuves sur l'emprise de marché des bureaux d'enregistrement et des registres? Vous avez parlé du fait que les services faisaient partie de l'ensemble. Et quels sont les critères que vous utiliserez pour déterminer l'emprise de marché? Et en ce qui concerne le statu quo, il y a une structure avec les registres et les bureaux d'enregistrement qui comporte un certain nombre de contraintes. Et c'est pas certain qu'il y aura pas d'abus du système qui en découlerait. Est-ce que vous pouvez donc répondre à ces trois points? En ce qui concerne la première question, j'ai vu des études qui sont disponibles. Donc j'ai vu ce que vous avez vu et à partir de ces études sur l'emprise de marché, j'ai vu des données sur les actions, etc. Mais un des points qui découle de l'analyse de Steve et de la mienne, quand vous voulez calculer l'emprise de marché, si vous parlez du registre ou du bureau d'enregistrement, il faut cibler la dynamique de concurrence. Et votre deuxième question donc, est pertinente à cela. Ce serait comme utile de regarder, par exemple, la revente, la question de la revente. Peut-être qu'il y a une différence entre les actions du... les pas de... les actions eux-mêmes sont pas utiles pour calculer l'emprise de marché. C'est pas une très bonne façon de calculer l'emprise de marché. Y a sûrement d'autres données qu'on peut utiliser. Et c'est à partir de là que Steve et moi-même on fait nos analyses. Mais il y a néanmoins des limitations dans les données disponibles pour pouvoir faire cela. Vous avez parlé donc d'espace commercial et il y a d'autres secteurs qu'on peut utiliser comme référence pour indiquer cela. Les indices, on peut vous donner les indices, les lignes directrices de l'Union européenne. L'emprise de marché parle de barrières à l'entrée, des substitutions, etc. Donc, il y a beaucoup de registrants qui pensent que c'est plus simple de faire une substitution de bureaux d'enregistrement que d'autres. Parce qu'on sait qu'il y a certains bureaux d'enregistrement qui font payer plus cher pour les mêmes services. Pas de marché... peut-être il faut regarder des marchés un peu plus ciblés, marché de consommateurs par exemple. Donc il y a beaucoup de variables qu'il faut regarder. Et à partir du travail que j'ai fait, il n'y a pas vraiment une très, très bonne étude, une étude très fiable sur la manière de calculer l'emprise de marché. ICANN s'est focalisé sur l'emprise de marché au niveau des bureaux d'enregistrement. Mais au niveau des registres, je considère, et je suis un peu prudent ici parce que ce n'est qu'une indication, mais je pense que le point com a une emprise de marché, mais franchement, personne n'a vraiment fait une bonne étude là-dessus. Et je pense que .com, ils ont une évolution, développement très rapide. Et s'ils augmentent le prix jusqu'à $500 pour l'enregistrement de nom, ça serait faisable. Mais pour $500 pour 3 ou 4 ans, même si il s'arrêtait après ces 3 ou 4 ans, il ferait néanmoins un bénéfice. Mais il y a un plafonnement de prix pour .com. Mais est-ce que .biz pourrait le faire aussi, d'augmenter le prix? Je ne pense pas. Il y a des gens très innovateurs dans cette salle. Il faudrait terminer cette réunion. John, vous m'avez dit que j'avais 30 minutes et il y a 6 minutes et il y a 2 questions. Si vous pouvez le faire en 6 minutes, autrement les portes vont s'ouvrir et il faut que je commence à enlever les chaises. Donc, question rapide si vous voulez, si vous pouvez. questions rapides et observations rapides. Me voilà. Donc, John. La question rapide, c'est... vous avez parlé des frais de slotting, est-ce que vous pouvez parler de on a parlé beaucoup de aujourd'hui de forcer l'accès ou limiter les accès entre les bureaux d'enregistrement ou les registres. J'ai parlé pour un petit registre pendant un moment et ce serait bien si on pouvait donc innover, créer un nouveau marché. On ne voulait pas le forcer. Donc avoir des règlements qui forcent des bureaux d'enregistrement à offrir des... Donc, je suis d'accord avec les autres qui ont dit que les règlements faibles sont utiles. Merci. Je vais répondre à votre question rapidement. En ce qui concerne les contrats de slotting, on a parlé du marché des épices, par exemple. Et il y avait une décision donc, qui était le sujet du litige. Je ne pense pas qu'ils étaient anti-concurrentiels, mais ce n'est pas des substituts pour le type d'analyse dont vous parlez qui, pour informer votre politique. Il y a un nombre de cas qui impliquent la concurrence ou, par exemple, l'exemple de McCormick, mais dans la plupart des cas aux États-Unis, des contrats à long terme, pendant des années, par exemple. Mais ce n'est pas... en ce qui concerne les études, il y a une étude sur les créneaux... Et les entreprises ont répondu que non. Un des articles cités sur le diapo va vous diriger vers les preuves qui existent là-dessus. Donc des frais de créneau. Si vous voulez un bon exemple de l'exclusion de la distribution commerciale, vous pouvez regarder sur Windows et Internet Explorer. Donc, ça serait une bonne point de départ. Dernière question, Marcus Foley. Je suis Core Console Registrars. Un point sur les noms Internet en Allemagne, ils sont beaucoup moins chers que les .com. Core est pour la séparation, mais je suis d'accord avec Michael Pelage que les solutions qu'on regarde sont souvent faites avec à partir des données américaines. J'ai mon t-shirt de la réunion de 2002 et TLD cible le marché au Ghana. Il n'y a pas de bureau d'enregistrement accrédité Ghana. Il n'y a que deux dans la totalité de l'Afrique. Donc, ce qu'il faut faire, vous êtes obligé d'aller à un bureau d'enregistrement américain et de leur demander de vous proposer l'enregistrement, votre point Accra. Et il faut dire aux gens chez vous d'aller faire l'enregistrement du nom Internet. Il faut payer par carte de crédit, qui n'est pas vraiment un bon système de paiement pour le Ghana. Donc, il n'y a pas de solution simple. Nous avons un certain nombre de solutions. Nous voulions bien travailler avec le personnel de ICANN. S'il y a des membres du personnel de ICANN présents, ils peuvent se mettre en contact avec moi. Est-ce que vous voulez y répondre à cela? Sinon, je vous remercie de votre temps et de passer plus de temps que prévu afin de pouvoir répondre aux questions. Et merci à tous ceux qui sont restés. On va s'assurer qu'il y a une excellente transcription de la session. Et si vous avez d'autres commentaires que vous voulez ajouter, faites-nous le savoir et puis on va l'ajouter.
All right, the hotel houseman, if you don't mind, I will pick up the paper. If you can start moving the chairs, I will pick up the paper. You start moving the chairs. Thank you.